Des bandes à part?
Les bandes existent depuis toujours. Qui n'a pas en mémoire la rivalité entre les Capulet et les Montagu qui fut fatale à Roméo et Juliette, et sa transposition moderne dans West Side Story avec les Sharks et les Jets? Faire partie d'une bande est même une caractéristique de l'adolescence. Mais toutes les personnes que j'ai interviewées pour cette étude s'accordent sur un point. Les bandes qui se livrent aujourd'hui aux rixes interquartiers n'ont rien de commun avec les affrontements de bandes d'autrefois. Elles en diffèrent sur plusieurs points.
Une structure informelle.
D'abord, la bande traditionnelle a généralement un nom, un chef, un quartier général, des signes de reconnaissance, un code, une devise, des rites d'entrée, parfois même une mission. C'est d'ailleurs en cela qu'elle constitue un outil de socialisation permettant à l'adolescent d'échapper à la hiérarchie familiale pour s'intégrer à un autre groupe censé préfigurer le futur environnement social. Rien de tout cela avec nos bandes modernes. Elles peuvent avoir des meneurs, mais pas de véritables chefs qui feraient régner un certain ordre, comme c'est le cas dans les bandes qui font le trafic de drogue. Sa constitution fluctue en fonction des circonstances. Elle peut comporter une centaine de membres. L'adhésion est souvent forcée, sous peine de représailles, et rien n'est exigé à l'entrée, sinon une certaine solidarité. Elle n'a parfois pas de nom, sinon celui du quartier où habitent ses membres. Cette structure fluide fait qu'il est très difficile de la saisir.
Des membres de plus en plus jeunes.
L'autre trait dominant de ces nouvelles bandes est l'âge de leurs membres. Tous les témoins constatent qu'ils sont de plus en plus jeunes, entre 11 et 15 ans. La plupart sont donc collégiens, mais certains groupes se forment dès la fin du primaire, en CM2, donc à 9 ou 10 ans. Très tôt, ces enfants disposent de leur propre outil de communication. Ils ont tous un téléphone. Ils sont habitués, dès leur plus jeune âge, à vivre en dehors du regard des adultes, dans leur monde. Et c'est là un gros problème qui rend ce phénomène inédit. Les jeunes échappent désormais à la surveillance des aînés et s'autorégulent selon leurs critères à eux.
Le rôle clé des réseaux sociaux.
Internet joue un rôle clé dans ces bandes par le biais des réseaux sociaux. Tous les adolescents utilisent aujourd'hui Snapchat, WhatsApp, TikTok. Si un réseau comme Facebook est de plus en plus délaissé par les jeunes, d'autres ont leur faveur pour des raisons évidentes. Les serveurs de Snapchat sont conçus pour supprimer automatiquement tous les messages une fois qu'ils ont été vus par tous les destinataires. Idéal si l'on veut se donner rendez-vous pour une action et effacer sa trace. Les messages de WhatsApp, eux, sont cryptés. Personne ne peut les lire, même pas WhatsApp, et a fortiori les forces de l'ordre. Autrefois, celles-ci repéraient sur Facebook les messages qui annonçaient des rassemblements, des fêtes non autorisées, etc. Mais c'était autrefois. Aujourd'hui, il suffit de créer un groupe WhatsApp pour sa bande ou pour un événement particulier, en y associant qui on veut, et personne d'extérieur à la bande n'en saura rien. La bande peut ainsi se réunir très vite au moindre fait déclencheur.
L'obsession du buzz.
Mais les réseaux sociaux ne servent pas qu'à fixer des rendez-vous. Leur grand effet pervers est qu'ils permettent aux jeunes de faire le buzz, comme des journalistes de médias. La presse rend d'ailleurs un bien mauvais service à la société en se faisant l'écho des agressions. Elle nourrit la réputation des bandes et constitue un élément clé de la compétition qu'elles se livrent. Décrocher un article dans Le Parisien est considéré comme un must. Et quand l'agression fait la une, c'est le jackpot.
Des pratiques de plus en plus dangereuses.
Des groupes informels, des membres très jeunes, une information qui circule à la vitesse de la lumière, les bandes d'aujourd'hui sont aussi de plus en plus dangereuses. Les témoins rapportent ainsi une élévation du degré de violence. Autrefois, les bandes se battaient la plupart du temps à main nue. Aujourd'hui, faute sans doute d'avoir assez confiance dans leur capacité physique, les membres s'arment, le plus souvent de couteaux, mais aussi de barres de fer, de battes de baseball et parfois même d'armes à feu. De ce fait, les conséquences des rixes sont beaucoup plus graves et les morts, comme on l'a vu, ne sont plus rares. Sans parler des victimes qui survivent avec des séquelles importantes. Pour les acteurs du terrain, les responsables de cette montée de la violence chez les jeunes sont les écrans. Jeux vidéo, films, séries, jeux internet. De là à penser que les rixes sont une transposition des jeux dans le monde réel, il n'y a qu'un pas. Que fait le législateur face à cette montée de la violence sur les écrans? Il est en fait très démuni car les réseaux sociaux sont détenus par des sociétés américaines sur lesquelles il y a peu de prise. En fait, on laisse les familles se débrouiller avec ce phénomène. Surtout qu'à côté du coup de couteau pour tuer l'autre, il y a une façon plus subtile encore de le détruire, c'est de le pousser au suicide par le harcèlement. Et là encore, les événements se déroulent hors du regard des adultes. Sans rencontrer d'autres limites que celles qu'ils se donnent, les adolescents jouent avec la vie de leurs camarades en vase clos.
La mort ne signifie plus rien.
Mais ont-ils conscience de jouer la vie de leurs camarades? Le phénomène des rixes laisse entrevoir un manque total d'empathie à l'égard de la souffrance de l'autre. Ce manque d'empathie qui amène certains jeunes à des actes d'une grande perversion semble s'accompagner d'une perte du réel, qui peut sans doute être imputée à l'abus de scènes violentes dans les jeux vidéo, ces jeux où si l'on meurt, on ne meurt pas vraiment, on fait reset et la partie reprend. Sauf que dans la vraie vie, comme on dit dans les boîtes de nuit, toute sortie est définitive. Indépendamment de la violence des écrans, les jeunes expriment sans doute une violence dont ils ont été victimes eux-mêmes dans leur foyer, ou dont ils ont été témoins entre leurs parents. Mauvais traitements à leur égard, violences faites à leur mère, humiliations subies à l'école, etc. On ne devient pas violent par hasard ou par facilité, cela vient de loin, comme on le verra par la suite.
La mauvaise influence du rap.
Le rap a sa part de responsabilité dans la montée de la violence chez les jeunes. Les stars du mouvement se mettent en scène dans des situations qui relèvent du délit, voire du crime. Le maniement du couteau ou du revolver est monnaie courante dans les clips. Mais c'est du spectacle, les rappeurs ne font pas dans la vraie vie les actes qu'ils mettent en scène dans leurs vidéos. Sauf que les jeunes qui les regardent et qui les prennent comme exemple le croient et sont enclins à reproduire leur modèle.
Et les filles dans tout cela?
Le rôle des filles ne doit pas être négligé. Au contraire, il est essentiel dans les rixes interquartiers. Elles font elles-mêmes partie des bandes. Elles peuvent aussi jouer les informatrices et renseigner les agresseurs sur les déplacements de telle ou telle cible. Et puis à l'adolescence, le désir d'épater les filles n'est pas étranger à certains forfaits. On peut dire que l'attrait de certaines filles pour les mauvais garçons joue un rôle dans le phénomène. Elles ne sont pas pour rien dans la construction de la réputation des agresseurs et, plus ou moins consciemment, distribuent des gratifications qui rehaussent leur estime d'eux-mêmes.
Peut-on quitter facilement ces nouvelles bandes ?
Les bandes exercent une forte pression sur leurs membres pour qu'ils restent solidaires. Est-il donc impossible de sortir d'une bande ? La réponse semble clairement non. Pour ceux qui s'occupent de ces jeunes sur le terrain, c'est une question de caractère individuel. Restent dans ces bandes ceux qui ont envie d'y rester. Faire partie d'une de ces bandes répond à un besoin que le jeune, pour se disculper, fait souvent passer pour une contrainte subie à son corps défendant. Mais, en creusant un peu, on s'aperçoit qu'il satisfait une part des attentes du jeune. Nous sommes donc bien face à un phénomène nouveau qui diffère de ce que l'on a connu par le passé, essentiellement parce que les écrans rendent les auteurs d'agressions plus précoces et plus violents, les coupent du réel et les isolent des adultes. Il est donc essentiel que les parents redoublent de vigilance sur l'usage que font leurs enfants d'Internet et surtout des réseaux sociaux, en espérant que les responsables politiques prendront conscience que ces nouveaux outils de communication sont en train de modifier en profondeur les relations interpersonnelles de la jeunesse et se décideront à prendre des mesures.